Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Sanhedrin, page 41, Daf Mem Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Tenehu Inyan le Malkout applique cette clause pour la peine de la flagellation. En effet, même si la peine prescrite pour celui qui a une relation avec sa sœur est la peine du retranchement dans le monde futur, le tribunal peut quand même infliger la peine de la flagellation à cette personne, puisque finalement elle a transgressé un commandement négatif, si les témoins l'ont averti auparavant qu'il serait condamné à cette peine. Donc finalement le passouk nous enseigne que sans avertissement, cette peine ne pourra pas être infligée. De Be'chizkiya Tana, dans le Beit HaMidrash de Chizkiya, il a été enseigné une braïta qui interprète le passouk dans Shemot Kafalef. Le pasouk dit « Vechi azid ish al re'ehu lehorgo be'orma » et celui qui se lève volontairement sur son prochain pour le tuer avec malice. Le terme de « Vechi azid » voudrait dire que cette personne a commis ce crime d'une manière volontaire sans que rien ne puisse l'arrêter. Cela voudrait dire donc « Shehitrubo » il s'agit d'un cas où les témoins l'ont averti qu'il serait condamné à mort « Ve'adain humezid » et il est toujours en train de faire ce crime volontairement. Nous voyons donc là aussi que pour être condamné à mort, il faudra que les témoins l'aient averti. De Berabi Ishmael Tana, dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, il a été enseigné une braïta qui interprète le pasouk dans Bamidbar Tedvav concernant la personne qui a transgressé le Shabbat en ramassant du bois. Alors le pasouk dit « Hamotzim oto mekoshesh etzim » et ceux qui l'ont découvert en train de ramasser du bois l'ont emmené devant Moshe Rabbeinu et le tribunal. Alors la question se pose, puisque le pasouk a déjà raconté que des témoins avaient découvert une personne en train de ramasser du bois, le pasouk aurait dû simplement dire, et ils l'ont amené devant Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que le pasouk nous ajoute ceux qui l'ont découvert en train de ramasser du bois? Alors la réponse est, Sheitrubo vadain hu mekoshesh. Le pasouk vient nous préciser que les témoins l'ont averti qu'il serait condamné à mort, et il a quand même continué à ramasser le bois. Nous voyons donc là aussi que pour être condamné à mort, il faudra que les témoins aient averti le criminel auparavant. De Berebi Tana, dans le Beit HaMidrash de Rebi, il a été enseigné une braïta qui interprète le pasouk dans Dvarim Kafbet concernant la personne qui commet l'adultère en ayant une relation avec une jeune fille fiancée qui a reçu le Kiddushin. Or, cette personne sera condamnée à mort par la lapidation. Or, le pasouk dit « Aldevar Asherina » sur la chose qu'il a fait en violant la femme de son prochain. Les termes de Aldevar sont en trop. En fait, on peut les traduire d'une manière différente. On peut les traduire en effet Aliske Dibour à cause des paroles, sous-entendu que les témoins lui ont dit sur le crime qu'il allait commettre en violant la femme de son prochain. Nous voyons donc là aussi qu'il faut avertir le criminel pour pouvoir le condamner à mort. En Lagmara dit Utricha, nous avons besoin de ces quatre psukim. Dei katav rachamana achoto. Si la Torah n'avait écrit que le passou concernant celui qui a une relation avec sa sœur, Havamina, j'aurais cru, Chaeve Malkut In, c'est uniquement pour un crime qui mérite la flagellation qu'il faudra avertir le criminel pour pouvoir le condamner. Chaeve Mitot, mais lorsqu'il s'agit d'un criminel qui doit être condamné à mort, qui est donc une faute plus grave, Lo, on aurait cru qu'on n'ait même pas besoin de l'avertir pour pouvoir le condamner à mort. Katavra Chamana Kiazid, c'est pour cela que la Torah a écrit le passou concernant l'assassin et celui qui se lève volontairement sur son prochain, pour nous enseigner que même lorsqu'il s'agit d'un crime qui mérite la peine de mort, le criminel devra être averti auparavant pour pouvoir le condamner. Ve'ikatav rachamana v'chiyazid, et si la Torah avait simplement écrit le pasouk, et celui qui se lève volontairement donc concernant l'assassin, havamina j'aurais cru, hanemile sayaf, que c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un crime qui mérite la peine de mort par l'épée, qui est la peine la moins grave, qu'il faudra avertir le criminel auparavant, avalskila de chamura, mais s'il s'agit d'un crime qui mérite la peine de mort par lapidation, qui est la peine la plus grave, et malo, j'aurais cru qu'on n'a même pas besoin d'avertir le criminel auparavant. Tzricha, c'est pour cela que la Torah a eu besoin d'écrire aussi un pasouk concernant un crime qui mérite la peine de mort par la lapidation, qu'il faut avertir le criminel auparavant. En effet, le pasouk l'a dit concernant la personne qui a transgressé le Shabbat. Alors la Gemara demande, Vetarte beniskalin lamali, pourquoi a-t-on besoin de deux psukim concernant un crime qui mérite la peine de mort par la lapidation. En effet, le pasouk a écrit qu'il faut avertir le criminel auparavant concernant celui qui transgresse le Shabbat et aussi concernant la personne qui commet l'adultère en ayant une relation avec une jeune fille fiancée. Ces deux crimes sont passibles de la peine de mort par la lapidation. Alors pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de nous écrire à deux reprises qu'il faut avertir le criminel auparavant? L'Agma répond, les Rabbi Shimon, selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui dit plus loin dans la Mishnah Daf Mem Tet Amud Bet, que la peine de mort par le brûlement interne est la peine la plus grave, nous avons besoin de ce pasouk, Le'atouye Nisrafim, pour inclure le crime passible de la peine de mort par le brûlement interne. Nous apprenons donc de ce pasouk supplémentaire que même pour un crime de cette gravité, il faudra quand même avoir averti le criminel auparavant pour pouvoir le condamner à mort. Les Rabbanan, selon les Chachamim, qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon dans la Mishnah plus loin d'Af Mem Tet Amud Bet, selon eux, c'est la peine de mort par la lapidation qui est la peine la plus grave. On n'a donc pas besoin de pasouk pour nous enseigner que pour une peine de mort moins grave, il faudra avertir le criminel auparavant. Quand même, nous dirons que ce pasouk vient nous dire, Milta de Atia be Kalvachomer, qu'une chose qu'on aurait pu apprendre par un raisonnement a fortiori, Taraf et Katav Lakra, le pasouk s'est quand même efforcé de l'écrire. Alors la Gemara demande, Velichtav Rachamana Beniskalim, le pasouk n'avait qu'à écrire qu'il faut avertir le criminel auparavant, uniquement dans le cas d'un crime passible par la peine de mort par la lapidation, Veletu Hanach, Veligmerumine, et que viennent les autres cas, donc les autres crimes dont la gravité est moindre, et qu'on les déduise des crimes passibles de la peine de mort par la lapidation. En effet, on aurait pu appliquer un raisonnement a fortiori, de dire que si déjà les crimes les plus graves ne peuvent être condamnés que si le criminel a été averti auparavant, à plus forte raison que pour les crimes qui sont moins graves, le criminel ne pourra pas être condamné s'il n'a pas été averti avant. Donc pourquoi est-ce que le pasouk a besoin de nous enseigner que le criminel a besoin d'être averti auparavant, par exemple, pour un crime passible de la peine de flagellation? L'Agma répond, Hachanami, là aussi nous disons la même réponse, Milta de Atia Bekal Vachomer, une chose qu'on aurait pu déduire d'un raisonnement a fortiori, Tarach Vekata Vlachra, le pasouk s'était forcé quand même de l'écrire. La Gemara reprend le passage de la Braïta qui dit, Hitir Atzmo Lemita, l'une des questions que l'on pose au témoin, est-ce que le criminel a accepté de mourir s'il commettait ce crime? Alors la Gemara demande, Menalan, d'où le sait-on qu'il doit accepter de mourir s'il commet ce crime? La Gemara répond, Amar Rava Vitema Chizkia Amakra, le pasouk dit, dans Dvarim Yudzaïn, sur la parole de deux témoins, Yumat Hamet, le mort sera tué. En fait, le pasouk parle du criminel. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que le pasouk nomme le criminel le mort? La Gemara répond, Achi Atir Atzmo Lemita, le criminel ne pourra pas être condamné à mort jusqu'à ce qu'il accepte de mourir s'il commet ce crime. Et c'est pour cela que le pasouk l'appelle le mort. Amar Rav Hanan, Ede Nahara Meurasa, des témoins qui auraient accusé une jeune fille âgée entre 12 ans et de 12 ans et demi, qui était fiancée, c'est-à-dire qui a reçu des kiddushin d'avoir commis l'adultère. Ils ont voulu donc la faire condamner à mort par la lapidation, chez Uzmu, et ils ont été contredits par d'autres témoins qui ont déclaré qu'ils n'ont pas pu voir ce crime, puisqu'ils étaient avec eux ailleurs, au moment où ils prétendent avoir vu ce crime. Les premiers témoins sont donc déclarés menteurs, ou plutôt comploteurs Edim Zomemin. En principe, on leur inflige la même peine qu'ils voulaient faire infliger à l'accusé. Alors là, dans ce cas, Enneragin, on ne les tuera pas. Autrement dit, on ne leur infligera pas la peine qu'ils voulaient faire encourir à cette jeune fille. Et cela parce que Mitor Shecholin Lomar Leosra Al-Ba'ala Banu, parce qu'ils peuvent dire que la raison pour laquelle nous avons témoigné, c'était simplement pour l'interdire à son mari, et non pas pour la condamner à mort. Ragmar demande, Beha Atouba, pourtant il s'agit d'un cas où ils l'ont averti, sinon, de toute façon, on n'aurait pas pu condamner cette jeune fille à mort. Ragmar répond, de loin Atouba, il s'agit d'un cas où ils ne l'ont pas averti. Ragmar demande, Veilo Atouba, et s'ils ne l'ont pas averti, Hechim Ekatla, comment est-ce qu'on aurait pu la tuer? Et puisqu'on n'aurait pas pu la tuer, les témoins comploteurs ne méritent pas cette peine qu'ils voulaient faire encourir à cette jeune fille. Agma répond, Beisha Chavera, il s'agit d'une femme qui connaît la loi, Ve'aliba de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, de Tania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda Omer, Chaver en tzarich hatra'a. Celui qui connaît la halakha n'a pas besoin d'être averti par les témoins pour le condamner à mort. Les fiches l'on itna hatra'a, parce qu'en fait, l'avertissement n'est nécessaire, et là, le avrin ben shogeg le mezid, que pour faire la différence entre celui qui commet un crime par inadvertance et celui qui le fait volontairement. Autrement dit, la raison pour laquelle les témoins doivent avertir le criminel, c'est pour informer un éventuel ignorant. Mais si la personne est au courant de la halakha, il n'y a aucune raison de l'avertir, parce que dans ce cas, nous savons qu'il a commis ce crime volontairement. Il pourra donc être condamné à mort, même sans avertissement. Donc, dans notre cas aussi, il s'agit d'une femme qui était au courant de la loi, et elle savait donc que cet adultère était interdit, et qu'elle serait condamnée à mort par la lapidation. Les témoins n'ont donc pas eu besoin de l'avertir. Cependant, lorsqu'on les contredit, ils peuvent se dérober de la peine de mort en disant qu'ils voulaient simplement l'interdire à son mari et non pas la faire condamner à mort. En la Gemara demande, Veki vande inhu lomikatle, et si les témoins ne sont pas mis à mort lorsqu'on découvre leur mensonge, ihi hechimikatla, comment peut-on la condamner à mort s'ils ne sont pas contredits? Haviala eduche iata yachol lazima. Il se trouve que ce témoignage est un témoignage qui ne peut pas être contredit de manière à faire encourir au témoin la peine qu'il voulait faire encourir à l'accusé, et tout témoignage qui ne peut pas être contredit de manière à punir le témoin, l'oshema edut n'est pas considéré comme un témoignage, autrement dit, ce témoignage n'est pas accepté. Finalement, dans ce cas donc, on ne peut pas accepter le témoignage de ces témoins, même s'ils ne sont pas contredits. L'agma répond, hachinami ka'amar. C'est justement cela que Rav Hanan a voulu nous enseigner. Mitor she'en neheragin, puisque ces témoins ne seront pas condamnés à mort s'ils sont contredits, she'echolin lomar le'osra al-ba'ala banu, parce qu'ils peuvent dire qu'on voulait simplement l'interdire à son mari et non pas la faire condamner à mort, afhi ena neheraget, elle ne sera non plus pas condamnée à mort si les témoins ne sont pas contredits, dehaviala edut she'iyata yachol la'azima, parce qu'il s'agit d'un témoignage qui ne peut pas être contredit de manière à punir les témoins. En la Gemara demande, ela be'isha chavera. Si c'est ainsi, le cas de la femme qui connaît la loi des Kaimalan concernant laquelle il nous est établi de Mikatla, Alibad Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qu'on la condamne à mort, selon l'opinion de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, si elle commet l'adultère, même si elle n'a pas été avertie par les témoins, Herimash Karatla, comment peut se présenter un cas pareil, puisque dans tous les cas, les témoins peuvent dire qu'ils voulaient simplement l'interdire à son mari. Comme nous l'avons dit, dans ce cas, la femme non plus ne sera pas condamnée à mort. Ma répond, Keshezinta Bechazra Vezinta. Il s'agit d'un cas où les témoins témoignent qu'elle a commis l'adultère à deux reprises. Dans ce cas, puisqu'elle est interdite à son mari dès la première fois, les témoins n'avaient pas besoin de témoigner qu'elle l'a commis une deuxième fois. Si les témoins ont quand même témoigné sur un deuxième adultère, forcément c'est pour la faire condamner à mort. Dans ce cas donc, cette femme sera condamnée à mort, et si les témoins sont contredits, ils seront eux-mêmes condamnés à mort. La Gemara demande, Veha Yecholin Lomar, pourtant les témoins peuvent dire, même s'ils ont témoigné qu'elle a commis deux fois l'adultère, le Osra al-Bo'ala Sheni Banu, nous sommes venus l'interdire à son deuxième amant. En effet, de la même manière que la femme qui commet l'adultère est interdite à son mari, elle est aussi interdite à son amant. Donc, les témoins peuvent dire qu'ils ont témoigné qu'elle a commis l'adultère à deux reprises, c'est pour l'interdire à ses deux amants. Finalement donc, ni la femme ni les témoins ne pourront être condamnés à mort. L'agma répond, Shezinta mi boel rishon. Il s'agit d'un cas où les témoins témoignent qu'elle a commis l'adultère à deux reprises avec le même amant. Si c'est ainsi, forcément le deuxième témoignage est destiné à la faire condamner à mort. Par conséquent, la femme sera condamnée à mort, et si les témoins sont contredits, ils seront eux-mêmes condamnés à mort. Inami ou bien Shezinta mikroveha. Il s'agit d'un cas où les témoins témoignent qu'elle a commis l'adultère avec un des membres de sa famille, qui lui était de toute façon interdit. Donc, même si pour le premier témoignage, ils peuvent dire qu'ils voulaient simplement témoigner pour l'interdire à son mari, forcément, le second est venu pour la faire condamner à mort. C'est pour cela, donc, que la femme sera condamnée à mort Si les témoins sont contredits, ils seront eux-mêmes condamnés à mort. Alors la Gemara demande, Maishna Na'ara Meurasa de Nakat, pourquoi est-ce que Rav Hanan a choisi le cas d'une jeune fille fiancée, Afilou Nusuanami, même s'il s'agit d'une femme mariée, la halakha sera la même, que si les témoins témoignent qu'elle a commis l'adultère, la femme ne pourra pas être condamnée à mort, à moins que les témoins ont témoigné qu'elle a commis à deux reprises l'adultère, comme nous l'avons expliqué plus haut. La Gemara répond, Ela afilu hay de loyatva tute. Mais en fait, le chidouche de Rav Hanan, que même si des témoins témoignent contre cette femme qui est simplement fiancée, donc qui n'habite pas avec son mari, on aurait pu croire qu'on n'accepterait pas l'excuse des témoins, parce qu'il semble évident que leur témoignage est destiné à faire condamner cette femme à mort. Quand même, Rav Hanan nous enseigne que Yocholin Lomar Leosra Alba'alah Banu, que les témoins peuvent dire qu'ils voulaient simplement interdire cette femme à son mari et non pas la faire condamner à mort. Ils peuvent donc ainsi se dérober de la peine de mort qu'ils méritent. Et aussi, comme nous l'avons expliqué plus haut, la femme non plus ne sera pas condamnée à mort, à moins que les témoins témoignent qu'elle a commis l'adultère à deux reprises. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il faut beaucoup interroger les témoins. Ainsi, s'ils se contredisent, leur témoignage sera refusé. Amar Rav Chisda, Echad Omer Besayef Hargo, si l'un des témoins dit que l'assassin l'a tué avec une épée, Vechad Omer Be'ariran Hargo, et l'autre dit qu'il l'a tué avec une lance, Enzenachon, ce témoignage n'est pas juste. Autrement dit, puisque les témoins se contredisent, leur témoignage sera refusé. Echad Omer Kelav Shorim, en revanche, si l'un des témoins dit que les habits de l'assassin étaient noirs, Vechad Omer Kelav Levanim, alors que l'autre dit que les habits de l'assassin étaient blancs, Harezenachon, le témoignage est juste. Autrement dit, il sera accepté. Et cela parce que finalement, ces témoins se contredisent sur des détails qui n'ont rien à voir avec le crime. Métivé, on a opposé à Rav Chisda in Braïta, qui interprète le pasouk concernant les témoignages. Alors, le pasouk dit Nachon, il faut que le témoignage soit juste. Chez Ihe Nachon, nous déduisons de là qu'il faut que le témoignage soit juste, autrement dit, que les témoins ne se contredisent pas. Par conséquent, Echad Omer Besayef Argo, si l'un des témoins dit que l'assassin l'a tué avec une épée, Vechad Omer Be'ariran Argo, alors que l'autre dit qu'il l'a tué avec une lance, ou bien Echad Omer Kelav Shorim, si l'un des témoins dit que les habits de l'assassin étaient noirs, Vechad Omer Kelav Levanim, alors que l'autre dit que les habits de l'assassin étaient blancs, En Zenachon, le témoignage n'est pas juste, autrement dit, puisque les témoins se contredisent, leur témoignage sera refusé. Nous voyons donc dans cette braïta que même si les témoins se contredisent sur des détails qui n'ont rien à voir avec le crime, leur témoignage est quand même refusé, contrairement à ce qu'enseignait Rav Chisda. Agma répond, Tirgema Rav Chisda. Rav Chisda a interprété la braïta de la manière suivante. Il s'agit d'un cas où les témoins se contredisent, Besoudar Shechan Kobo, concernant le foulard avec lequel l'assassin l'a étranglé. De Haynu Sayef Ve'ariran, ce cas ressemble donc au cas où les témoins se contredisent concernant l'arme du crime, à savoir s'il s'agissait d'une épée ou d'une lance. Alors la Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. Echad Omer Sandalav Shorim, si l'un des témoins dit que les sandales de l'assassin étaient noires, Echad Omer Sandalav Levanim, alors que l'autre dit que les sandales de l'assassin étaient blancs, Enzenachon, le témoignage n'est pas juste, autrement dit les témoins se contredisent, le témoignage sera refusé. Nous voyons donc que même s'ils se contredisent sur un détail qui n'a rien à voir avec le crime, quand même le témoignage est refusé, contrairement à ce qu'a enseigné Rav Chisda. L'agma répond, Hatam Nami Kigon Sheba'adbo Besandalo Vehargo. Là-bas aussi dans la Braïta, il s'agit d'un cas où l'assassin lui a donné des coups de pied avec sa sandale, et c'est ainsi qu'il l'a tué. Autrement dit, il s'agit aussi d'un cas où ils se contredisent sur l'arme du crime. C'est pour cela donc que leur témoignage sera refusé. L'agma en continue. Tashma, viens écoute une preuve de notre Mishnah. Notre Mishnah dit, Maase Ubadak Ben Zakai Bouktseteena. Il y a une histoire où Ben Zakai a interrogé les témoins concernant la taille des queues des figues produites par le figuier sous lequel s'est passé le crime. Nous voyons donc que si les témoins se contredisent sur un détail qui n'a rien à voir avec le crime, leur témoignage est quand même refusé. L'agma répond, Amar Rami Bar Chama, Kegon She'akat Te'ena B'Shabbat. Il s'agit d'un cas où le crime qui a été commis, c'est que la personne a coupé des figues pendant Shabbat. De'Allah Kamiktil, c'est sur cela qu'il est condamné à mort. Finalement donc, il s'agit non pas d'un détail qui n'a rien à voir avec le crime, mais justement de l'objet du crime. C'est pour cela que si les témoins se contredisent à ce sujet, leur témoignage sera refusé. Alors la Gemara demande, Va'atania, pourtant il a été enseigné dans une braïta qui explique cette histoire. Amroulo, les témoins ont dit à Ben Zakkai, Tachat te'ena hargo, il l'a tué sous un figuier. Nous voyons donc que le crime dont il s'agit est un meurtre et non pas une transgression du Shabbat. Nous pourrons donc finalement prouver dans notre Mishnah que même si les témoins se contredisent sur un détail qui n'a rien à voir avec le crime, leur témoignage sera refusé. L'Agma répond, et là, Amar Rami Bar Chama, c'est pour cela que Rami Bar Chama dit que c'est ainsi qu'il faut comprendre notre Mishnah, que Gon Sheshavdo Biyehur Shel Te'ena, il s'agit d'un cas où il l'a embroché avec une branche de figuier. Ben Zakkai interrogeait donc les témoins sur l'arme du crime, et c'est pour cela que s'ils se contredisent à ce sujet, leur témoignage sera refusé. La Gemara continue, Tashma vient coûte une preuve d'une braïta qui explique cette histoire. Amar Lahen, Ben Zakkai a dit, ou donc a posé la question suivante aux témoins, Te'enazu, le figuier en question, Uktseha Dakin, Uktseha Gassin, est-ce que les queues des figues produites par ce figuier sont fines, ou est-ce que ces queues sont épaisses? Te'enim Shchorot, Te'enim Levanot, est-ce qu'il s'agit d'un figuier qui produit des figues noires, ou bien est-ce qu'il produisait des figues blanches? Nous voyons donc qu'il les a questionnés sur des détails qui n'ont rien à voir avec le crime, et quand même, son opinion est que s'ils se contredisent à ce sujet, leur témoignage sera refusé, contrairement à l'enseignement de Rav Frisda. L'Agma répond, et là, ma Rav Yosef, c'est pour cela que Rav Yosef dit, mi ben Zakkai lotiv inish, est-ce qu'une personne peut opposer à Rav Frisda l'opinion de Ben Zakkai? Sha'ani Ben Zakkai, l'opinion de Ben Zakkai est différente de Bdikot ke Hakirot Mashvele, parce qu'il accorde autant d'importance à l'interrogatoire concernant les détails insignifiants du crime qu'à l'interrogatoire des détails essentiels du crime, comme la date et le lieu du crime. En effet, l'avis de Ben Zakkai est que même si les témoins se contredisent sur les détails insignifiants du crime, leur témoignage sera refusé. Mais les Chachamim sont désaccord avec cela. Selon eux, le témoignage sera refusé que si les témoins se contredisent sur les détails essentiels du crime. La Gemara demande, Man Ben Zakkai, qui c'est ce fameux Ben Zakkai? Il est ma Rabbi Yochanan Ben Zakkai, si tu veux dire que c'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai, mi hava besanedre, a-t-il fait partie du tribunal suprême? Ve'atania, pourtant il est enseigné dans une braïta, kol shnotav shel Rabbi Yochanan Ben Zakkai, me avesrim shana. Rabbi Yochanan Ben Zakkai a vécu 120 ans. Arbaim shana asak bepragmatia, pendant 40 ans il a fait du commerce. Arbaim shana lamad, pendant 40 ans il a étudié la Torah. Arbaim shana limed, pendant 40 ans il a enseigné la Torah. Il n'a donc plus siégé au tribunal que pendant les 40 dernières années de sa vie. Vetania, et il a été enseigné dans une braïta, Arbaim Shana Kodem Khurban Abayit, 40 ans avant la destruction du Bet Amikdash, Galta Sanhedre, le tribunal suprême qui siégeait dans la cour du Bet Amikdash est parti en exil, Veyashvalah Bechanout, et ce tribunal s'est installé dans un endroit appelé Chanout, dans la ville de Yerushalayim. Ve'amar Ravi Yitzhak Baravudimi, Lomar, cette braïta nous enseigne, Shelo Danu Dine Knasot, qu'à partir du moment où le tribunal suprême s'est exilé, les tribunaux ont arrêté de juger des affaires où il est question d'imposer une amende. Par exemple, comme le cas du voleur qui paye deux fois la valeur de ce qu'il a volé. La Gemara demande Dine Knasot Salkadatar, peux-tu penser que les tribunaux ont arrêté de juger des affaires concernant les amendes? Pourtant, ces affaires n'ont rien à voir avec le fait que le tribunal siège dans le Beit Hamikdash. La Gemara répond, et là, plutôt c'est ainsi qu'il faut dire, Shelo Danu Dine Nefashot, qu'à partir du moment où le tribunal suprême a quitté la cour du Beit Hamikdash, les tribunaux n'ont plus le droit de juger des affaires où il est question de condamner une personne à mort. Et cela parce que le pasouk dans Dvarim Yudzaïn, concernant le juge qui refuse d'obéir au tribunal suprême, en la loi est que s'il continue à émettre un avis différent de celui du tribunal suprême, il sera condamné à mort. Alors dans ce paragraphe, le pasouk dit « Ve'kamta ve'alita el hamakom » tu te lèveras et tu monteras vers l'endroit Il s'agit donc de l'endroit où siège le tribunal suprême. Puisque le pasouk précise l'endroit et non pas simplement « et tu iras te présenter devant le tribunal », nous pouvons déduire que c'est seulement si le tribunal suprême siège à son endroit prévu, c'est-à-dire dans la cour du Beit HaMikdash, que cette loi sera appliquée. Puisque cette précision a été donnée dans un cas qui peut aboutir éventuellement à une condamnation à mort, nous apprendrons de là que pour tout jugement où il est question de condamner une personne à mort, il faudra que le tribunal suprême siège dans la cour du Beit HaMikdash. Donc une fois que le tribunal a quitté la cour du Beit HaMikdash, les tribunaux ne peuvent plus juger ces affaires. Voir le Tosfot dans Avodah Zarah d'Afret Amud Bet et le Maharsha sur le Tosfot, et voir aussi le Aruch Laner sur le Rashi dans notre Gemara. En tout cas, nous voyons de cette Braïta que pendant les 40 ans qui ont précédé la destruction du Beit HaMikdash, aucun tribunal n'a siégé sur une affaire concernant une condamnation à mort. Utnan, il a été enseigné dans une Mishnah dans Rosh Hashanah d'Av Kaftet Amud Bet, Mi Shecharav Beit HaMikdash, après la destruction du Beit HaMikdash, Hitkin Rabban Yochanan Ben Zakkai. Rabban Yochanan Ben Zakkai a institué. Nous voyons donc qu'après la destruction du Beit HaMikdash, Rabbi Yochanan Ben Zakkai était encore en vie. Puisque nous avons appris précédemment que Rabbi Yochanan Ben Zakkai n'a enseigné que pendant les dernières 40 années de sa vie, il est donc impossible qu'il ait siégé dans un tribunal sur une affaire concernant une condamnation à mort. Finalement, le Ben Zakkai mentionné par notre Mishnah ne peut pas être Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Ma réponse est là, Ben Zakkai d'Alma, il s'agit d'une autre personne qui s'est appelée Ben Zakkai. L'Agma a conclu, Hachinami Mistabra, effectivement, il est logique de dire ainsi, de Is al Kadatar Rabban Yochanan Ben Zakkai. Parce que si tu penses que la Mishnah parle effectivement de Rabban Yochanan Ben Zakkai, car elle est Rebi, est-ce que Rebi l'aurait nommé Ben Zakkai, sans lui accorder le respect de mentionner son nom propre? Alors, la Gemara demande, Ve'atania, pourtant il est enseigné, Maase ou Badak Rabban Yochanan Ben Zakkai, Be'uktse Te'enim. Il y a eu une histoire où Rabban Yochanan Ben Zakkai a interrogé les témoins sur la taille des queues de figues produites par le figuier sous lequel le crime s'est passé. La Gemara répond, et là, plutôt c'est ainsi que nous devrons dire, Talmid Hayoshev Lifne Rabo Hava. À l'époque où cette histoire s'est passée, Rabban Yochanan Ben Zakkai était un élève qui était assis devant son maître. Comme nous l'avons dit, qu'entre l'âge de 40 et 80 ans, il a appris la Torah. Ve'amar milta umistaber lehu tame. Et il a dit quelque chose, donc il a proposé d'interroger les témoins sur la taille des queues de figues, et son opinion a été acceptée par le tribunal.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Mem Alef Amud Bet. Ve'kav'u ha'bishme, et ils ont décidé de faire rapporter cet enseignement au nom de Rabban Yochanan Ben Zakkai. Ki hava lamad, lorsqu'il apprenait la Torah, Ben Zakkai hava karele, on l'appelait Ben Zakkai ketalmid ha'yoshev lifnei rabo, comme un élève assis devant son maître. Ki hava limed, lorsqu'il a atteint le stade d'enseigner la Torah, Hava Karele, Rabban Yochanan Ben Zakkai. On l'appelait Rabban Yochanan Ben Zakkai. Ki Karele Ben Zakkai, lorsque la Mishnah le nomme Ben Zakkai, Al-Shem Demeikara, c'est sur son nom précédent, lorsque l'histoire s'est effectivement passée. Bechi Karele, Rabban Yochanan Ben Zakkai, mais lorsque la Braïta le nomme Rabban Yochanan Ben Zakkai, Al-Shem Dehashta, c'est parce que la Braïta voulait rapporter son nom actuel, bien que cette histoire se soit passée lorsqu'il était encore élève, et qu'il s'appelait simplement Ben Zakkai. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Maase ou Badak, il y a une histoire où Ben Zakkai a interrogé les témoins sur la taille des queues des figues produites par le figuier sous lequel s'est passé le crime. Ma Ben Hakirot, etc. Quelle différence y a-t-il entre les questions sur la date et le lieu du crime et les questions sur les détails du crime? Alors la Mishnah répond que pour les Hakirot, pour les questions concernant la date et le lieu du crime, même si l'un des témoins dit qu'il ne connaît pas la réponse, le témoignage sera refusé. Alors que pour les questions concernant les détails du crime, si un témoin ou même si deux témoins disent qu'ils ne savent pas, leur témoignage est accepté. Alors la Gemara demande, Mai afilu shnaim omrim. Que veut dire la Mishnah lorsqu'elle dit, même si les deux disent qu'ils ne savent pas? Pshita, c'est évident. Ki amar echad eni yodea edutan kayemet. Si nous disons que même si l'un des témoins dit qu'il ne connaît pas la réponse à la question, leur témoignage est accepté. Finalement donc, cela prouve que la réponse à ces questions n'est pas obligatoire. Qui amrebetren ami, même si les deux disent qu'ils ne connaissent pas la réponse à cette question, et d'outan kayemet, il est évident que leur témoignage sera accepté. L'agma répond à Marav Shechet, à Rechakaye, cette partie de la Mishnah se rapporte au début de la Mishnah. Be'achika Amar, et c'est cela que la Mishnah a voulu dire. Be'chakirot, pour les questions concernant la date et le lieu du crime, afilu shnaim umrim yadanu, même si deux témoins disent que nous connaissons la réponse à ces questions, ve'chad omer eni yodea, et un autre, donc un troisième témoin dit qu'il ne connaît pas la réponse à ces questions, et d'outan betela, leur témoignage est annulé. Keman, selon quel tana va cette interprétation, que Rabbi Akiva, cette interprétation suit l'opinion de Rabbi Akiva, de Mekish Shlosha Leshnaim, qui compare le cas de trois témoins au cas de deux témoins. En effet, comme il est enseigné dans la Mishnah de Makot Dafé Amoudbet, qui interprète le pasouk dans Dvarim Yudzaïn, Alpi Shnaim Edim, O Shlosha Edim Yumatamet, sur les paroles de deux témoins ou de trois témoins, sera condamné à mort le criminel. La question se pose, si sur le témoignage de deux personnes, le criminel peut être condamné, à plus forte raison qu'il pourra être condamné par un témoignage de trois témoins. Alors la Mishnah répond, d'ailleurs c'est Rabbi Shimon qui le répond, mais comme le fait remarquer Rashi, Rabbi Akiva qui parle aussi dans cette Mishnah est d'accord avec Rabbi Shimon. Il ajoute simplement des détails supplémentaires que le pasouk voulait comparer le cas d'un témoignage de deux témoins au cas d'un témoignage de trois témoins. De la même manière que le témoignage de deux témoins forme une unité, par conséquent, la peine prévue pour les témoins comploteurs et dimzomemin ne sera appliquée que si les deux témoins sont contredits. Lorsqu'il s'agit d'un témoignage de trois témoins, l'halakha sera la même et la peine prévue pour les témoins comploteurs ne sera appliquée que si les trois témoins sont contredits. Donc nous apprenons de là que même dans le cas d'un témoignage de trois témoins, ce témoignage forme un tout qui ne peut être dissocié. Nous pourrons donc déduire que si le témoignage de l'un de ces témoins est refusé, tout le témoignage sera refusé. Par exemple, comme dans le cas de notre Mishnah, où un des témoins dit qu'il ne connaît pas la réponse aux questions, tout le témoignage sera refusé. Alors la Gemara demande à Mar Rava, Veha Edutan Kayemet Katane. Pourtant, il est enseigné dans la Mishnah, leur témoignage est valable. Comment pouvons-nous dire que la Mishnah voulait nous dire que dans le cas où un des trois témoins dit qu'il ne connaît pas la réponse aux questions, le témoignage est refusé? Et là, Mar Rava, c'est pour cela que Rava dit, Hachika Amar, c'est ainsi que la Mishnah a voulu nous dire, Afilu Bechakirot, même pour les questions sur le lieu et la date du crime, Shnaim Omrim Yadanu, si deux témoins disent, nous connaissons la réponse aux questions, Vechad Omer Eni Yodea, et l'un des témoins dit, je ne connais pas la réponse à l'une des questions, Edutan Kayemet, le témoignage est valable. Keman, selon quel Tana va cette Mishnah, de l'Oke Rabbi Akiva, elle ne suit pas l'opinion de Rabbi Akiva. En effet, selon cette interprétation, l'auteur de la Mishnah penserait que dans le cas d'un témoignage de trois témoins, même si pour une raison ou une autre, le témoignage de l'un des témoins est refusé, le témoignage des autres témoins sera quand même accepté. Rav Kahana et Rav Safra, Tanu Sanhedrin Beraba, ont appris la Masechet Sanhedrin dans le Beit HaMidrash de Rabba. Paga Behu Rami Barchama, Rami Barchama les a rencontrés. Amar Lehu, il leur a posé la question suivante. Mai Amritubah Besanhedrin de Beraba, qu'avez-vous à dire sur la Masechet Sanhedrin que vous apprenez dans le Beit HaMidrash de Rabba? Autrement dit, qu'avez-vous appris de nouveau là-bas? Amrele, Rav Kahana et Rav Safra lui ont répondu, Umay Amrinan Bah Besanhedrin Gredeta, et qu'avons-nous à dire sur la Masechet Sanhedrin toute seule, même si nous ne l'avons pas apprise dans le Beit HaMidrash de Rabba? Autrement dit, Umay Kachalach, quelle question as-tu à poser sur cette Masechet? Amar Lehu, Rami Barchama leur a répondu, Meha de Katane, j'ai une question sur ce qui a été enseigné dans notre Mishnah. Ma ben chakirot lebdikot, quelle différence y a-t-il entre les questions sur la date et le lieu du crime et les questions sur les détails du crime? Chakirot echad omer eni yodea, pour les questions concernant la date et le lieu du crime, si l'un des témoins dit je ne connais pas la réponse à l'une des questions, et d'utan betela, leur témoignage est annulé. Bdikot, mais pour les questions concernant les détails du crime, Amar Echad Eni Odea, si l'un des témoins dit « Je ne connais pas la réponse aux questions », va filushnaim omrim en anuyodin, même si les deux témoins disent « Nous ne connaissons pas la réponse aux questions », edutan kayemet, leur témoignage est accepté. Alors la question se pose, mirde idi veidi doraitahi, étant donné que les deux interrogatoires sont exigés minatora. En effet, nous apprenons du terme de nachon, le témoignage est juste, qu'il faut que les témoins ne se contredisent pas sur les détails du crime. Maishna hakirot ou maishna bdikot, quelle différence y a-t-il entre les questions sur la date et le lieu du crime et les questions sur les détails du crime? Pourquoi, pour les questions sur les détails du crime, même si les témoins ne connaissent pas la réponse aux questions, leur témoignage est accepté? Amroulé, Rav Kahana et Rav Safra lui ont répondu, Hachiashta, voyons voir, Bechakirot, pour les questions concernant la date et le lieu du crime, Amar Echad Eniodea, si l'un des témoins dit, je ne connais pas la réponse aux questions, Edutan Betela, leur témoignage est annulé. Parce que lorsque l'un des témoins ne connaît pas la réponse aux questions, nous nous trouvons en présence d'un témoignage qui ne peut pas être contredit de manière à ce que les témoins soient punis en tant que témoins comploteurs. En effet, si on ne connaît pas la date exacte du crime, il est impossible de les contredire. Et c'est pour cela donc que le témoignage est annulé. En revanche, Bdikot, pour les questions concernant les détails du crime, Amar Echad Mehem Eniodea, si l'un des témoins dit « Je ne connais pas la réponse aux questions », Edutan Kayemet, leur témoignage est valable. Et cela parce que « Edut Shatayachole Azimahu » il s'agit d'un témoignage que tu peux contredire. En effet, puisque nous connaissons la date exacte à laquelle ils prétendent avoir vu le crime, d'autres témoins peuvent les contredire en disant qu'ils étaient avec eux ailleurs ce jour en question. Il n'y a donc aucune raison de refuser leur témoignage. Amar Lehu, Rami Bar Chama leur a dit, Iachi Amrituba, si c'est cela que vous avez à dire sur la Masechet Sanhedrin, Tuva Amrituba, vous disiez une grande chose. Amrele, Rav Kahana et Rav Chizda lui ont répondu, Mitivute Demar, parce que tu es bon avec nous, Amrinan Bar Tuva, tu as découvert que nous avons beaucoup à dire sur cette Masechet. Minezihute Demar, mais si tu avais été agressif avec nous, Lo Amrinan Bar Velo Chada, on n'aurait rien trouvé à dire sur cette Masechet, parce que tu aurais refuté tout ce que nous avions à dire. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Echad Omer, etc. Si l'un des témoins dit que le crime s'est passé le 2 du mois, et l'autre dit que le crime s'est passé le 3 du mois, leur témoignage est accepté. Autrement dit, nous considérons que les témoignages ne se contredisent pas. Cela, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, parce qu'il s'agit d'un cas où ils s'accordent sur le jour de la semaine. Nous estimons donc que l'un des témoins n'était pas au courant qu'un jour supplémentaire a été ajouté au mois précédent et que le début du mois a donc été repoussé. Alors la Gemara demande, Ad Kama, jusqu'à combien du mois accepterons-nous qu'une personne ne sache pas que le début du mois où le Rosh Chodesh a été déplacé? La Gemara répond, Amar Rav Acha Bar Chanina, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Ad Rubo Shel Chodesh, jusqu'à la majorité du mois. Autrement dit, la première moitié du mois, il est encore acceptable qu'une personne ne soit pas au courant que le Rosh Chodesh a été repoussé, mais passé la moitié du mois, nous estimons que tout le monde est au courant que le Rosh Chodesh a été déplacé. Par conséquent, si l'un des témoins dit que le crime s'est passé le 15 du mois et l'autre dit qu'il s'est passé le 16 du mois, nous considérons que ces témoignages se contredisent et il sera refusé. Amar Rava, Afanan Namitanina, nous avons enseigné ainsi aussi dans notre Mishnah. Echad Omer Beshlosha, Echad Omer Bechamisha, si l'un des témoins dit que le crime s'est passé le 3 du mois et l'autre dit qu'il s'est passé le 5 du mois, Edutan Betela, leur témoignage est annulé, et cela même s'ils s'accordent sur le jour de la semaine. Alors la Gemara demande à Amai pourquoi, Nema Sheze Yodea Beshnei Burim, on n'a qu'à dire que celui-ci, c'est-à-dire celui qui dit que le crime s'est passé le 3 du mois, était au courant que le Rosh Chodesh a été déplacé deux fois, autrement dit, deux mois ont été augmentés d'un jour, alors que celui-ci qui dit que le crime s'est passé le 5 du mois, ne sait pas que le Rosh Chodesh a été déplacé à deux reprises, et que deux mois ont été augmentés d'un jour. Et là, n'est-ce pas donc que la raison pour laquelle nous ne disons pas cela, Mishum Deberuba Yada, c'est parce que nous sommes persuadés que lorsque la majorité du mois est passée, tout le monde sait que le Rosh Chodesh a été déplacé. Finalement, il est impossible que l'un des témoins ait une erreur sur deux mois. La Gemara répond, Leolam et Malecha, toujours pourrais-je te dire Beruba Nami Loyada, que même lorsque la majorité du mois est passée, il se peut qu'une personne ne sache pas encore que le Rosh Chodesh a été déplacé d'un jour. Ou Beshipura Yada. En revanche, tout le monde est au courant de la sonnerie du chauffard qui annonce le début du mois. Par conséquent, Bechad Shipura Amar Detae, pour une fois la sonnerie du chauffard, nous pouvons dire qu'une personne se soit trompée. Il se peut en effet que cette personne ait raté la sonnerie du chauffard, et elle peut donc toujours croire que le Rosh Chodesh était le 30e jour du mois précédent comme d'habitude, et non pas le 31e jour. Betre Shipura lo amar detae. Mais pour deux sonneries du chauffard, nous ne dirons pas qu'une personne se soit trompée. Autrement dit, nous n'admettrons pas qu'une personne ait raté deux fois la sonnerie du chauffard de manière à se tromper de deux jours. Nous avons fini ici le shiur de Sanhedrin Daf Mem Alef. Nous commençons le shiur de Sanhedrin Daf Mem Bet. Nous commençons Daf Mem Alef Amud Bet à la cinquième ligne du bas de la page. Puisque la Gemara a emmené précédemment un enseignement de Rav Acha Bar Hanina au nom de Rav Assi qui a dit lui-même au nom de Rabbi Yochanan, la Gemara rapportera maintenant plusieurs enseignements du même auteur. On veut Amar Rav Acha Bar Hanina, Amar Rav Assi, Amar Rabbi Yochanan. Ad kama mevarchin al haChodesh, jusqu'à quand peut-on bénir le mois, c'est-à-dire jusqu'à combien du mois peut-on faire la Birkat Alvana, qui est la bénédiction que l'on dit sur la nouvelle lune. Il répond Ad shetitmale begimata, jusqu'à ce que se remplisse ce qui manque de la lune. Alors, la Gemara demande Vekama, jusqu'à quel jour du mois peut-on donc faire cette bracha? La Gemara répond Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yehuda, Ad Shiva, jusqu'au 7e jour du mois. Neharde et Amre, les sages de Neharda disent Ad Shisha Asar, jusqu'au 16e jour du mois.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.